Vous écoutez
RMC.
RMC Sport Show. Sport Show.
Simon Dutin.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Le RMC Sport Show, l'heure où le foot fait traditionnellement une place à l'antenne aux autres sports et de la place. Il va falloir en faire une grande, une très grande, une immense, puisque deux grands champions ont accepté l'invitation de RMC. Julien Alaphilippe, le double champion du monde de cyclisme sur route, sera notre invité dans un instant. Le coureur français se raconte dans un livre, Mon année arc-en-ciel, livre que Julien est venu présenter à Paris hier. On a pu en profiter pour lui tendre le micro. Il nous racontera son année entre les deux victoires au championnat du monde. On parlera de ses objectifs pour la saison prochaine. On lui demandera si l'homme devenu papa a finalement tant changé que ça. Autre invité du RMC Sport Show, une légende de la course à pied, Eliud Kipchoge, le Kenyan, lui aussi de passage dans la capitale, le double champion olympique et recordman du monde, a accepté l'invitation de Benoît Boutron, notre spécialiste athlé de la course à pied, a réussi à le rattraper pour une interview dont on vous propose ce soir les meilleurs extraits. Ce week-end, on a salué le symbole des 1000 jours qui nous séparent de la cérémonie d'ouverture des Jeux de Paris 2024. À cette occasion, Maureen Le Houx est allée ce matin à la rencontre des courageux alignés au départ de la course dans les rues de Paris. On sera également avec Samir Aït Saïd, le porte-drapeau de la délégation française aux Jeux de Tokyo. Et puis en fin d'émission, on reparlera un petit peu foot. Clermont OM, c'est l'affiche de clôture de la 12e journée de Ligue 1. On parlera rugby également avec une affiche de rêve, Racing 92. Stade Toulousain, dommage qu'il manque les internationaux. On en parlera tout à l'heure avec Julien Richard. Voilà le programme, on se dépêche de commencer. Il est chargé, le RMC Sport Show démarre tout de suite sur RMC.
RMC Sport Show.
Et pour m'accompagner, elle fait une infidélité à Thibaut Djangrande et Oussem Loussaïef. Je suis ravi d'être accompagné par Maryse Evangépé. Salut Maryse.
Salut, salut, c'est toi qui me fais une infidélité, à vrai dire.
C'est vrai.
Moi, je suis là, je suis présente.
C'est vrai, on en parlait avec Manuel Amoros en
quel
début d'après-midi.
Quel que soit le meneur de jeu.
Manuel Amoros qui nous faisait remarquer que dès qu'ils ont l'occasion, ces deux loustiques là,
ils filent en douce.
Une petite journée de congé. Ah, ça.
Je les imagine, l'un déguisé en vampire et l'autre en chauve-souris, ça doit être magnifique.
Tu sais que ce sont de grands fans d'Halloween, effectivement.
Je n'en doute pas.
Thibaut avec ses enfants et Oussem, lui, qui est resté un grand enfant. On les embrasse, ils seront évidemment de retour la semaine prochaine. Ça me donne l'occasion de partager ce moment avec toi. J'en suis ravi avec les auditeurs. Tu l'as entendu, le programme complet,
on est gâtés. Il fallait être là, tout simplement.
Bon, comme promis, je vous le disais, il y a 19h01, on ne va pas perdre de temps. C'est l'événement du week-end sur RMC.
La une du RMC Sport Show.
Un arc-en-ciel dans la grisaille de ce week-end de la Toussaint. Deux arc-en-ciel même, vous allez comprendre, puisqu'il ne passe en France que pour saluer la famille, gagner quelques étapes du Tour au mois de juillet, ou encore présenter un livre, comme c'est le cas ce week-end à Paris. Julien Alaphilippe, le double champion du monde français de cyclisme sur route, et l'invité du RMC Sport Show. Mon année arc-en-ciel, c'est le livre dans lequel le coureur français se raconte. Le coureur français qui nous accorde un petit moment. Bonsoir Julien et merci d'avoir accepté l'invitation du RMC Sport Show.
Bonjour à tous.
Julien, j'exagère à peine lorsque je dis ça, vous n'êtes quasiment jamais en France, ça vous fait plaisir d'être à la maison entre guillemets pour quelques jours?
Ouais, c'est vrai que j'ai moins l'occasion d'y venir, à part pour le Tour ou les reconnaissances d'étapes ou voilà, il y a aussi Paris-Nice ou quand je vais faire un petit coucou à la famille, mais c'est vrai que l'emploi du temps est toujours bien rempli et j'ai de moins en moins de temps pour profiter mais voilà, là ça me fait plaisir et je suis content.
Julien, j'en parlais à l'instant, Mon année arc-en-ciel, c'est le titre du livre que vous signez aux éditions Marabout. Un récit écrit à la première personne qui nous plonge dans votre tête, vos pensées, vos doutes, vos rêves, votre quotidien de champion, d'homme, de père, qui nous emmène du lendemain de votre victoire à Imola, votre premier titre de champion du monde, au lendemain du second, remporté dans les Flandres à la fin du mois dernier. Vous avez triché, ça fait pas tout à fait une année, ça vous a paru si long que ça?
Non, justement, c'est passé très vite. Ouais, j'ai eu beaucoup de demandes pour faire des choses, pour faire plaisir aussi au public. Il y a eu de nombreuses demandes. Et pour moi, faire ce livre, c'était quand même une manière de retranscrire un peu sur du papier tout ce que j'ai pu ressentir un peu tout au long de cette année, qui a été une année riche en émotions, où il y a eu beaucoup de changements, que ce soit personnel avec la naissance de mon petit et professionnel avec de belles victoires, des hauts, des bas, et le maillot arc-en-ciel. Donc voilà, c'était un moyen de laisser une trace de cette année un peu incroyable pour moi et aussi pour que ça fasse plaisir aux lecteurs.
Pourquoi l'envie de vous raconter comme ça? Vous aviez besoin de, j'ai envie de dire, court-circuiter les modes de communication traditionnels. On sait qu'ils passent souvent par les médias. Vous aviez envie de créer un lien direct entre votre parole et le public?
Ouais, voilà, ça me tenait à cœur vraiment déjà que ce soit moi qui raconte avec mes mots, pas utiliser non plus des photos qui sont déjà en ligne sur les réseaux sociaux ou qu'on peut trouver sur Internet. C'était vraiment une façon de parler sans filtre aussi et de pas enlever les mauvais moments. D'ailleurs, au début du livre, il y a tout de suite le passage de Liège-Bastogne-Liège où j'ai perdu la course ouais. en faisant des erreurs. Donc voilà, il y a plein de petites choses comme ça qui viennent vraiment de moi et ça parle aussi du vélo, de ma saison, mais de mon petit, de Marion qui m'accompagne au quotidien et des bons moments, des mauvais moments. Il y a un peu de tout et c'est une année qui m'aura beaucoup marqué. Donc voilà, c'était important de laisser une trace et de cette manière.
Alors ce livre, dont je rappelle le titre, « Mon année arc-en-ciel » aux éditions Marabout, finalement c'est un petit peu votre divan à vous, une sorte de thérapie parce que vous nous dites vraiment tout. Est-ce que ça fait du bien ?
Ouais, pas tout, mais il y a beaucoup, en tout cas, ça c'est sûr. J'ai pas voulu, comme je l'ai dit tout à l'heure, mettre de filtre ou cacher des mauvais moments, parce que des mauvais moments, on en a tous, et il y en a eu aussi pour moi cette année, avec voilà, des déceptions. Mais non, ça s'est quand même plutôt bien passé tout au long de l'année, et c'était un plaisir pour moi d'échanger après chaque course pour faire un peu le débrief et écrire tout ce que j'ai pu ressentir. Aussi faire de belles photos, partager des moments et à la fin, ça fait vraiment plaisir de voir ça dans un livre, quoi.
C'est vrai que c'est formidable. On a vraiment l'impression d'être dans le bus avec vous après les courses. Il y a que la souffrance dans les mollets qu'on ressent pas tout à fait, hein, surtout pour les néophytes. On a été marqué, Julien, l'an dernier, par le poids de ce maillot arc-en-ciel. Madeleine de Proust, s'il en est, pour tous les amoureux de vélo, on sait qu'il vous faisait rêver, vous l'aviez déclaré avant Imola. On sait qu'il vous a pesé très lourd sur les épaules, vous ne vous en êtes jamais caché lors de la saison passée. Est-ce que celui que vous allez porter la saison prochaine va peser moins lourd ?
J'espère en tout cas, j'espère, parce que c'est vrai que mine de rien, j'ai appris à courir avec le maillot, à le porter chaque jour à l'entraînement et toutes les sollicitations qui vont avec. Je m'étais aussi mis une certaine forme de pression sur les épaules à vouloir toujours le faire briller, à vouloir toujours donner le maximum, mais on sait que c'est pas toujours évident et que c'est pas facile d'être performant de la première course en février jusqu'à la dernière en octobre. Donc il faut savoir des fois prendre un peu de recul et avec ce maillot on a toujours envie d'être bon et on veut pas se décevoir soi-même, décevoir ses coéquipiers et aussi les supporters. Donc on veut toujours être bien et c'est peut-être là-dessus où je vais prendre un peu plus de recul l'année prochaine en appréciant déjà ce que j'ai réalisé, parce que c'était un rêve déjà d'aller chercher le titre mondial une fois et une deuxième fois c'était juste quelque chose que j'avais jamais imaginé. Donc déjà savourer tout ça et bien sûr continuer de faire ce que je sais faire, donner le maximum sur le vélo sans vouloir me mettre toujours la pression et j'espère que ça va mieux se passer.
Justement, vous étiez déjà un peu une terreur, une menace quoi, pour tous les coureurs du peloton dans les courses. Mais malgré ça, vous avez vraiment senti le regard sur vous changer, genre encore plus de surveillance avec ce maillot sur les épaules ?
Bon, je suis pas une terreur ou une menace, mais par contre, c'est sûr que mes adversaires savent que je dynamite toujours la course, qu'il se passe toujours quelque chose. Je suis un coureur qui aime attaquer, qui aime quand il y a du mouvement dans la course et je suis comme ça. Après, non, les regards, ils ont pas forcément changé. Bien sûr, on a un petit peu moins de liberté avec le maillot. On est tout de suite beaucoup plus surveillé, mais je l'étais aussi déjà avant. Donc, ça n'a pas changé grand chose. C'était plus quelque chose qui venait de moi à toujours vouloir faire mieux. Et c'est aussi une qualité, mais ça peut aussi parfois coûter des victoires et faire des erreurs. Donc, voilà, il faut juste rester toujours tranquille, comme j'ai toujours su l'être et profiter. Donc, voilà.
Julien Alaphilippe, le double champion du monde français de cyclisme sur route et l'invité exceptionnel du RMC Sport Show. Il présente aujourd'hui son livre, son récit « Mon année arc-en-ciel » aux éditions Marabout. Julien, justement pour cette prochaine saison, la deuxième consécutive avec le maillot arc-en-ciel sur le dos, quels sont vos objectifs ? On sait que vous n'avez pas l'habitude de vous cacher.
Ouais, bah, l'année dernière, j'ai voulu essayer de jongler avec les classiques flandriennes et les classiques ardennaises qui s'enchaînent. Je me suis aperçu que c'était possible de le faire, mais d'être à 100% sur les deux, c'est pas évident. Donc, je pense que ce qui va changer pour la première partie de saison prochaine, ça sera de rester concentré sur les classiques ardennaises, les courses qui me correspondent le mieux d'ailleurs. Même si j'ai adoré découvrir le Tour des Flandres, c'est une course que je reviendrai faire en étant prêt à 100% et prêt à donner le maximum et essayer de jouer la victoire. Mais jouer la victoire sur le Tour des Flandres et être prêt aussi pour la Flèche Wallonne et Liège-Bastogne-Liège fin avril, c'est un peu difficile. Donc voilà, je vais rester concentré l'année prochaine sur les Ardennaises. Et puis après, le Tour de France sera vite là et on verra.
Et ben justement, merci pour la passe décisive. On est obligé de vous poser la question estampillée Tour de France, hein, toutes mes excuses. Mais lors de la présentation du parcours de l'édition 2022 au Palais des Congrès, vous avez déclaré que le tracé vous plaisait. C'était pour faire plaisir à Thierry Gouvenou et Christian Prudhomme, ou alors vous pensez vraiment que vous pouvez gagner ou au moins vous illustrer?
Non, c'est sûr que c'est un parcours qui me plaît beaucoup parce que c'est difficile de prévoir un scénario et moi j'aime bien quand c'est comme ça. Il y a des terrains de jeu complètement différents déjà dans la première semaine avec un chrono, des étapes de bordure, des étapes de puncher, les pavés et la montagne qui va tout de suite s'enchaîner. Donc il peut se passer déjà tellement de choses dans la première semaine, dans la première partie du tour, que c'est difficile de prévoir un scénario. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui me plaît. Et quand je dis ça, je parle pas de je pense pas au classement général, je pense juste à faire de belles étapes, à essayer d'aller gagner. Et il va se passer plein de choses, donc ça va rendre le tour intéressant, enfin j'espère. Et c'est ça que je veux dire quand je dis que le tour me plaît, le parcours me plaît. Après, il y a aussi des étapes très difficiles, la haute montagne va être compliqué, donc ouais, je me fais pas pour l'instant trop de plans. Je vais attendre d'aller reconnaître certaines étapes pour pouvoir me fixer des objectifs plus clairs, quoi.
Est-ce que vous n'en avez pas marre qu'on se demande sans cesse si vous gagnerez un jour le Tour de France? Est-ce que parfois vous avez l'impression que bah, quelque part c'est une façon de dévaloriser un peu tout ce que vous avez accompli durant votre carrière? Sous-entendu, bon, tant qu'il gagnera pas le Tour de France, il ne sera pas l'un des meilleurs coureurs français de l'histoire.
Non, bon après il faut vivre avec, ça fait partie du jeu, voilà, les gens.
Ça vous agace pas?
Non, les gens forcément attendent un prochain vainqueur du Tour de France français, ça serait bien, mais pour nous aussi, pour le cyclisme français après tant d'années, bien sûr, ça serait génial et je rêve aussi de le faire, hein, mais c'est que il faut pas oublier que les saisons sont longues, il y a aussi d'autres courses, même si le Tour de France passe par-dessus tout. Moi, je veux être aussi performant à 100% sur les classiques. Il y a des courses qui me font rêver comme d'autres monuments que je rêve de gagner, que j'ai pas gagné encore, et il y a plein de choses à faire et c'est aussi des choses qui sont complètement différentes de courir pour gagner le Tour de France. Donc est-ce que même physiquement j'en suis capable, je sais même pas moi répondre à cette question, donc c'est pour ça que je me prends pas trop la tête et je reste concentré sur les objectifs que je me fixe. Et puis si un jour je sens que vraiment je veux prendre le départ du Tour avec l'ambition d'essayer de faire le classement général, et ben je le ferai. Mais je veux garder cette petite part d'incertitude encore, et c'est ce qui me donne envie d'avancer, parce que tout sacrifier dès l'année prochaine pour me dire je pense qu'au Tour, j'ai pas envie. Et voilà.
Dans le livre que vous présentez, hein, dont je rappelle le titre, Mon année arc-en-ciel aux éditions Marabout, vous parlez beaucoup, Julien, de l'esprit d'équipe, de camaraderie, ça revient souvent, de l'amitié finalement qui vous lie à certains coéquipiers. Je pense notamment à cette anecdote au début du livre sur Dries Deuvenens, votre collègue chez Quickstep. Vous nous apprenez qu'il avait refusé une sélection aux Mondiaux pour ne pas courir contre vous, parce que dans l'équipe belge, il aurait dû courir pour Van Aert. C'est une phase du cyclisme finalement que le grand public ne connaît pas toujours. C'était important pour vous de le raconter. On a l'impression que vous insistez beaucoup quand même sur l'esprit, l'état d'esprit et le collectif dans le cyclisme.
Ouais, j'ai voulu insister sur ce point-là parce que c'est une partie très importante pour moi. La relation que j'ai avec mon équipe et avec certains de mes coéquipiers, c'est vraiment un état d'esprit qui fait aussi parfois toute la différence sur les courses. Pour prendre l'exemple de Dries, c'est vraiment quelqu'un que j'apprécie énormément. On est des amis en plus d'être des coéquipiers sur le vélo. Donc quand il a refusé la sélection belge pour le championnat du monde, je pense que voilà, ça a encore démontré une fois toute sa classe et l'amitié qu'il a pour moi. C'est une super belle preuve qu'il a fait. Et voilà, on roule ensemble toute l'année. Il savait que j'avais des chances de pouvoir m'imposer. Il voulait pas se retrouver dans une situation où il devait rouler contre moi. Et ça m'a énormément touché. quand j'ai appris qu'il avait refusé cette sélection. Mais c'est à l'image du personnage, c'est un grand monsieur et voilà, je suis fier aussi de pouvoir compter sur un coéquipier comme ça, où on a une belle amitié et qu'on ça nous aide aussi à se dépasser encore plus sur le vélo, quoi.
Julien, cette année arc-en-ciel, c'est quasiment un cycle à elle toute seule, puisque je rappelle, elle commence 3 mois après le décès de votre papa. Elle se termine peu de temps après la naissance de votre fils Nino. On peut l'imaginer, vous le racontez. Du reste, ça fait un sacré changement dans la vie d'un homme. En quoi vous vous sentez différent aujourd'hui, un an après?
Bah, je me sens beaucoup plus accompli. Déjà, le fait de devenir papa, ça a été un grand moment pour moi. J'en suis le plus heureux. Ça fait relativiser sur tout. Et puis, d'un point de vue professionnel, d'avoir été chercher le titre mondial à Imola, ça a été une grande satisfaction, même si j'ai pas forcément eu le temps de savourer, parce que tout s'enchaîne toujours très vite. Et voilà, on est aujourd'hui à quelques semaines après mon deuxième titre. C'est quelque chose que j'avais pas du tout imaginé. Et voilà, dans pas longtemps, je reprends l'entraînement pour préparer la saison prochaine. Donc ouais, c'est un peu comme ça, ma vie en ce moment, c'est tout toujours à bloc, et je me dis que j'aurai peut-être le temps de réaliser un peu plus quand ça s'arrêtera. Mais pour l'instant, j'aime ce rythme-là et je préfère continuer comme ça à tout donner et aussi profiter de mon petit qui grandit vite. Donc, ça me donne beaucoup d'énergie pour la suite.
Et on vous cache pas qu'à RMC, on a hâte de vous revoir en compétition et sur le vélo. Merci beaucoup, Julien Alaphilippe, d'avoir accepté l'invitation de RMC, et bon courage pour la reprise de l'entraînement. Merci d'être passé par la radio et nous avoir fait ce petit coucou.
Avec plaisir. Merci. Au revoir.
Ah là là, c'est vraiment toujours un plaisir, Maryse, hein, d'échanger avec Julien Alaphilippe. On aime ces champions qui s'expriment avec autant de spontanéité et de franchise, j'ai envie de dire.
Oui, et puis ce sont des moments privilégiés, parce que c'est vrai que dans la saison, on n'a pas forcément le même rapport avec les champions. Il y a peut-être un peu plus de tension de leur côté, où ils se cachent un petit peu plus, parce que forcément, quand on est sur un objectif, on ne se livre pas de la même façon. Mais là, avec la sortie de ce livre et puis ce temps particulier, oui, c'est les entendre dans la longueur, c'est plonger un petit peu plus dans leur quotidien, c'est sympa, ouais.
On imagine que le panache du coureur français plaît à l'ancienne championne que tu es.
J'aime bien ce gars, je trouve qu'il a de belles valeurs, il sait pourquoi il roule, il sait ce qu'il est capable de faire, il a aussi une lucidité sur ce qu'il n'est pas encore capable de faire, et puis même l'ensemble du personnage qui privilégie à un moment donné sa famille, qui à un autre moment se donne à fond pour son sport, pour décrocher un titre de champion du monde, un deuxième titre de champion du monde, c'est magique, oui.
Et c'était le premier poids lourd, j'ai envie de dire, du RMC Sport Show aujourd'hui.
Le deuxième poids lourd sera Julien à peu près aussi léger, je crois.
Oui, je crois qu'il pèse pas beaucoup plus lourd, en vrai, que Julien Alaphilippe. Il pratique des disciplines dans lesquelles il vaut mieux être assez léger. Eliud Kipchoge, évidemment, le double champion olympique de marathon, chose promise, chose due, vous l'entendrez dans quelques instants. Mais avant, petite parenthèse, on parle foot.
RMC Sport Show.
La minute foot.
C'est l'heure de la minute foot. Clermont OM, c'est l'affiche de clôture de cette 12e journée de Ligue 1, le 14e face au 4e, 20h45 au stade Gabriel Montpied. On va retrouver tout de suite Damien Tardieu qui sera au commentaire de cette rencontre aux côtés de Jeannot Rességuier. Salut Damien.
Bonsoir Simon, bonsoir Maryse, bonsoir tout le monde.
Damien, on imagine que la venue de l'OM suscite une forme d'engouement pour manier un petit peu l'euphémisme dans une ville qui découvre, rappelons-le, la Ligue 1 pour la première fois de son histoire.
Ouais, exactement, le stade sera plein, bien évidemment, à Clermont. 12 800 spectateurs annoncés ce soir. Et on aurait pu le remplir presque 3 fois, ce stade. C'est ce qu'ont dit les dirigeants cette semaine. Il y a eu un énorme engouement autour de cette partie. Plus de 30 000 demandes de billets. Et le club a aussi bien joué le coup, parce que vous savez, ici, alors que les bus des deux équipes viennent d'arriver, eh bien, à Clermont, on n'a pas vraiment l'habitude, comme tu le disais, Simon, de ce genre de match. Et du coup, pour éviter que ce soit les supporters marseillais, expatriés, à Clermont, en Auvergne et un petit peu partout autour, eh bien le club a un petit peu géré le quota de place grand public qui était attribué, bien évidemment. Et du coup, on aura normalement un stade entièrement acquis à la cause du Clermont Foot, puisque les supporters marseillais sont interdits de déplacement. C'est vraiment nouveau ici à Clermont. Et là, pour l'arrivée du bus, il y a 2 minutes de cela, eh bien on avait quelques centaines de spectateurs qui s'étaient massés au pied de la tribune Gergovie, la grande tribune du Gabriel Montpied, pour accueillir les deux équipes. Et ça a fait du bruit, notamment pour les Marseillais, avec quelques sifflets. mais en tout cas le ton est donné. Marseille va devoir faire un gros match ici pour venir prendre des points chez les Clermontois qui ont malmené quelques grosses équipes depuis le début de la saison.
Ah oui, ça pourrait sentir le match piège pour l'OM.
Quand tu viens à la bataille de Jarboli, c'est sûr que le ton est donné.
Oui, en effet, à ma avis aux amateurs d'histoire, pour les autres, vous pouvez taper sur Internet. Merci beaucoup Damien Tardieu qui sera au commentaire de cette rencontre avec Jeannot Rességuet. Ce sera à suivre évidemment tout à l'heure dans After Foot, le match autour de Nico Villas, avant évidemment l'after avec Gilbert Bribois. Vous restez bien avec nous, le RMC Sport Show revient dans un instant. On va ouvrir une immense page intitulée Projection vers Paris 2024. On a fêté la barre symbolique des J-1000 jours avant l'ouverture des Jeux à domicile. Et je vous le disais, Eliud Kipchoge, invité d'honneur du RMC Sport Show. Tout ça, c'est dans un instant. Vous ne bougez pas.
RMC Sport Show.
Simon Dutin.
19h20, vous êtes de retour dans le RMC Sport Show. On est ensemble en direct jusqu'à 20h en compagnie de Marie Zévan, Juppé de la Dream Team RMC. Je vous le disais tout à l'heure, on a passé la barre symbolique du J-1000 avant l'ouverture des Jeux de Paris 2024. C'est l'heure de se projeter un petit peu vers ces JO à domicile dans le RMC Reportage.
RMC Sport
Reportage.
C'était la barre des J-1000, c'était hier, hein, pour être bien précis, à cette occasion, à l'occasion de cette barre symbolique des J-1000 de ce week-end. Une course un peu particulière était organisée sur les Champs-Élysées. C'était ce matin, 5 km de course pour tenter de remporter les premiers dossards, Maryse, du marathon pour tous des JO de Paris 2024, une course de masse. Il y en a deux précisément, il y aura un 10 km et un marathon qui se disputeront sur le même parcours que l'épreuve olympique. L'objectif était simple, si l'on peut dire, le principe était simple en tout cas, arriver avant la star du marathon, Eliud Kipchoge, ne pas en tout cas se laisser dépasser par le Kenyan qui partait, vous l'avez compris évidemment, avec une petite pénalité de retard.
Moi je pense qu'on aurait dû lui faire faire un marathon et les 5 derniers kilomètres avec tout le monde.
Excellente idée, ça aurait peut-être permis à Geoffrey Charpie, notre producteur, de réussir son pari, hein, parce que Geoffrey, tu sais, il a les cheveux courts, mais il s'est quand même fait décoiffer un petit peu par le passage de Kipchoge à ses côtés. Et figure-toi, Maryse, que Maureen Lehoux est allée se mêler aux compétiteurs. Maureen, bonsoir. La tâche était loin d'être aisée, certes, mais quelques participants ont tout de même réussi à décrocher leur sésame.
Je vous pose une seule question, levez la main et faites du bruit, ceux qui veulent l'or de ça pour le marathon pour tous 2024.
3500 coureurs sur la ligne de départ avec une seule idée en tête, battre Eliud Kipchoge, le double champion olympique du marathon.
On espère qu'on sera plus rapide que lui. Ça va le faire, il faut y croire, sinon on ne serait pas là.
Georges arrive de Belgique pour l'occasion.
Immanquable, c'est sûr ça, parce que j'ai une passion pour le marathon, alors je ne peux pas rater cette occasion-là. Et puis les Jeux Olympiques, c'est mythique. Hein.
Monica, la Nîmoise, a elle aussi les yeux brillants en pensant à ce dossard.
Participer au marathon de Jeux, c'est extraordinaire. Je crois que c'est rêve de chaque coureur, de chaque marathonien, tout au moins. Ouais, ça serait génial.
Et petit à petit, la tension monte avant.
3, 2, 1, go !
Les départs sont organisés par SAS, des plus lents aux plus rapides, jusqu'à la star kenyane et son rythme de 22 km. Sur les Champs-Élysées, Eliud Kipchoge a un couloir dédié. Sur le reste du parcours, entre les Invalides et le pont Alexandre III, il est encadré par des athlètes français à vélo, comme la cycliste Marie Patouillet, impressionnée par la foulée du marathonien.
Même à vélo, avec du monde autour, elle est compliquée à suivre.
En 15 petites minutes, Eliud Kipchoge boucle ses 5 km, laissant le temps à plus de 1000 coureurs de franchir la ligne d'arrivée avant lui.
Bravo jeu, merci.
Ça y est, on a notre dossard pour les Jeux Olympiques, donc c'est top. Mais arrivé avant Eliud Kipchoge, donc ça devrait être bon.
Voilà la joie de pouvoir participer à ce grand événement.
À l'image de ses trois amis qui ont couru ensemble, un peu plus loin, Marie a les larmes aux yeux.
Je suis émue, je sais pas si je peux parler. Je pensais pas pouvoir y arriver, même un jour faire un marathon, donc ça c'est un réel objectif. Et tout au long du parcours, ça a été très intense avec énormément d'encouragement, donc maintenant il faut que je mette en place un programme d'entraînement pour le marathon 2024.
Estelle aussi a du mal à trouver les mots.
C'est
C'est génial. Non, je réalise pas franchement, mais on sera vraiment des privilégiés en 2024. C'est les premiers JO où il y aura un marathon accessible à tous et ça, c'est grandiose.
Et même le champion Eliud Kipchoge a vécu un moment particulier.
C'était une expérience inédite. Partir dernier de la course et courir parmi les gens, c'était bizarre aussi que les coureurs finissent avant moi, mais c'est une belle expérience.
Pour Tony Estanguet, le président de Paris 2024, l'objectif est en tout cas atteint.
Ce qui me marque, c'est qu'on est à 999 jours de l'événement et il y a déjà de l'enthousiasme. Tous les gens nous disent merci, on a tellement hâte. C'est exactement ce qu'on veut vivre en fait. Des moments de sport, des moments de partage, rencontrer les athlètes. Donc on est dans Paris, sur les Champs-Élysées, c'est juste magique.
Et pas d'inquiétude pour ceux qui ont manqué le coche aujourd'hui. Il reste encore 9000 dossards à distribuer pour le marathon pour tous des Jeux Olympiques de Paris.
Merci beaucoup Maureen Lehoux de la rédaction de RMC Sport qui s'est donc mêlée aux participants de cette belle initiative. Maryse, c'est
alors,
sympa,
très,
non
très honnêtement, il y a beaucoup d'initiatives de Paris 2024 à la base où je trouvais ça nul, vraiment nul. Et notamment cette idée de marathon pour tous. C'est logique, étant une compétitrice et une ancienne olympienne, je me disais, ben non, le marathon olympique, c'est pas pour tous. Plus on avance vers ces jeux et plus je m'enlève de ce côté compétitrice pour voir l'intérêt populaire et je me dis que oui, c'est une bonne idée de le faire sur le même parcours en réunissant des gens qui vont découvrir la course à pied. Par contre, j'ai cru comprendre que ce matin, c'était un gros bazar quand même. L'organisation, c'était très très compliqué parce qu'en fait, les règles ont changé au dernier moment, qu'ils ont fait effectivement des sas par niveau en faisant partir le plus lent en premier. Mais en fait, ils ont tellement mal jaugé que les premiers, donc les plus lents qui sont des gens qui courent vraiment lentement, c'est-à-dire qui s'ils arrivent à faire un marathon déjà, ce sera fantastique et ce sera au-delà de 4 heures largement. Et en fait, ceux-là sont arrivés avant que le dernier sas ne soit parti, pratiquement avant qu'Eliud Kipchoge ne soit parti. Donc, il y a eu beaucoup de mécontents, mais je pense que ça va permettre en fait à Paris 2024 de s'ajuster, puisque là, ils ont donné 1000 dossards, ce qui est quand même beaucoup. Il en reste 8000 encore ou 9000. Et les prochaines courses, ils vont sûrement les organiser en fait pour que les meilleurs coureurs y arrivent. Parce que là, en fait, la grosse déception, c'est que les coureurs qui font des 5 km, des 10 km, des marathons régulièrement, mais qui ne sont pas des champions nationaux, qui sont des athlètes régionaux ou interrégionaux. Certains arrivent à se qualifier au championnat de France. Aucun n'a pu obtenir son billet, alors que finalement, des coureurs, entre guillemets, sans aucun mépris, hein, du dimanche, enfin occasionnel, ont pu avoir leur billet. Donc je comprends la déception, mais je dis simplement aux gens, soyez patients, parce qu'à mon avis, il y a eu un premier lot justement pour les gens en général qui font un peu de course à pied et les inciter à se mettre au sport, ce qui est une très bonne chose, et un très bon plan aussi pour la Fédération Française d'Athlétisme qui va aller voir s'inscrire dans les clubs pour progresser. Et je pense que les prochaines courses seront un peu plus justement pour les gens avec des chronos un peu plus intéressants.
Alors tu le disais, il reste, tu le rappelais, on l'a entendu dans le reportage de Maureen, il y a 9000 dossards encore à
moi distribuer. Je veux savoir si Geoffrey a eu son dossard.
C'est vrai qu'il y avait un petit peu de plâtre à essuyer ce matin. Geoffrey Charpinant, il n'a pas eu son dossard. Parce que lui, il a joué le jeu, figure-toi.
Il a déclaré un vrai temps.
Ouais, exactement, parce qu'il y a eu un petit peu de triche, figure-toi. Dans les coureurs qui partaient en premier, il y a quand même tout de même un finisher, un marathonien qui avait déjà couru le marathon en 3h30.
Oui, donc alors il y en a eu plusieurs qui n'ont pas déclaré leur vrai temps, mais c'est pas vraiment de la triche, puisque les règles, on ne les connaissait pas au départ, on ne savait pas comment ça allait s'organiser, donc on ne pouvait pas savoir que les plus lents, entre guillemets, ou les moins rapides, parce que les moins rapides allaient partir en premier, et certains, en fait, préfèrent déclarer des temps plus lents pour ne pas être dans la cavalcade et ne pas être bousculés. Alors c'est vrai, c'est pas tout à fait réglo, mais je pense que ça a été occasionnel. Je suis convaincue que dans les prochaines courses, tout le monde aura sa chance, parce que je sais qu'il y a eu vraiment des vraies déceptions pour des gens qui ont des licences, qui rêvent de faire les Jeux et qui ne feront jamais aucun grand championnat, en fait.
Alors, Geoffrey Charpille a raté son dossard pour le Marathon pour tous des Jeux de Paris 2024 à 7 minutes près. Ce qui est quand même tout de même pas si mal.
Ouais, donc il a vu passer à un moment donné.
Il a fait 22 au lieu de 15.
Il a vu passer une flèche à un moment donné.
Il a 2 mm de cheveux sur la tête, mais il s'est quand même fait décoiffer par
l'idée. L'idée quand même est très sympa.
Mais au moins il l'a vu. Il a couru quelques
secondes. L'idée d'aller chercher une star internationale et de dire bon, ça va être une course contre. Ça aurait peut-être été intéressant. Je reprends mon idée là de lui faire 42 bornes. Non, c'est évidemment pas sérieux. Mais par contre, si on fait 4 sas, pourquoi pas finalement laisser Kipchoge faire 4 fois 5 km. À chaque fois, il recommence avec un des nouveaux sas et avec des handicaps plus ou moins grands en fonction du niveau de coureur. Je pense qu'il y a des ajustements à faire, mais l'idée, je la trouve finalement assez formidable.
Et ça a créé un grand moment de bonne humeur entre tous ces amoureux de course à pied. C'est vrai qu'impliquer les stars du sport, les légendes du sport dans des opérations comme ça avec des sportifs amateurs, tu disais sportifs du dimanche, il y a vraiment aucun mépris là-dedans. Ça ressemble quelque part à la recette idéale pour promouvoir l'esprit des jeux et l'esprit olympique. Justement, chose promise, chose due, Eliud Kipchoge, vous l'entendrez dans quelques instants, c'est l'un des événements de la semaine sur RMC, le double champion olympique, recordman du monde du marathon, qui est l'invité exceptionnel de RMC, du RMC Sport Show. Vous ne bougez pas si vous voulez entendre la légende kenyan, c'est dans un instant sur RMC.
RMC Sport Show, Simon Dutin.
À 19h32, vous êtes bien de retour dans le RMC Sport Show. On est ensemble en direct jusqu'à 20h en compagnie de Marie-Zéven GP de la Dream Team RMC. Et vous le savez, comme tous les dimanches à cette heure-là, c'est l'heure du coup d'envoi de la seconde période.
La deuxième période du RMC Sport Show.
Alors l'histoire ne dit pas si Benoît Boutron est arrivé devant Kipchoge ce matin aux 5 km. En tout cas, nous, on ne vous le dira pas. Mais Benoît est arrivé en tout cas assez rapidement pour tendre le micro à la légende kenyane du marathon. Événement sur RMC, hein, le double champion olympique et recordman du monde du marathon parle rarement. Il préfère d'ordinaire s'exprimer avec sa foulée magique. Alors on se réjouit, hein, d'autant plus, Maryse, de vous proposer cette interview dont vous retrouverez l'intégralité dans le prochain numéro de RMC Running, votre podcast court à pied. Mais en attendant, Eliud Kipchoge, interview radio exclusive, c'est maintenant sur RMC. Événement ce soir sur RMC, Eliud Kipchoge, le meilleur marathonien de tous les temps, est notre invité. Alors avant de revenir sur tes titres, tes records et ton histoire, une question simple, Eliud Kipchoge, pourquoi tu cours ?
Je cours parce que courir, c'est la vie. Je cours parce que c'est le moyen que j'ai trouvé pour inspirer les gens à travers le monde. Ça me permet de voyager pour inspirer les jeunes générations.
Est-ce que tu as conscience d'être une légende du sport ?
C'est une très bonne question. Je pense que quand tu me le dis, je m'en rends compte. Mais je ne peux pas m'appeler moi-même légende. Les gens peuvent le penser, mais je ne dirai jamais ça de moi.
Eliud, tu es à Paris aujourd'hui, à 1000 jours du coup d'envoi des Jeux Olympiques de 2024. Est-ce que c'était important pour toi d'être là ?
C'est très important pour moi d'être ici. J'aimerais en profiter pour remercier le comité d'organisation de Paris 2024 de m'avoir donné la chance d'être ambassadeur de l'événement, de me donner l'opportunité d'inspirer et de donner l'envie à toutes les communautés de courir, de ramener le plus grand nombre de personnes pour mettre en lumière les Jeux de Paris 2024.
Paris, c'est un bon souvenir pour toi. C'est là que tu as remporté ton premier titre mondial sur 5 km à tout juste 19 ans. Tu as devancé deux légendes, Kenenisa Bekele et Hicham El Guerrouj. Tu t'en souviens forcément.
Oui, je me rappelle. 2003 a été une grande année. C'était le début de ma carrière sportive. Je ne pourrai jamais oublier Paris. C'est ici que ma vie a en quelque sorte commencé, au niveau de l'athlétisme en tout cas. C'est ici que j'ai commencé à construire ma carrière.
À Paris en 2024, tu peux décrocher un troisième titre olympique. Est-ce que c'est ton objectif ultime ?
Je n'ai pas encore pris ma décision, mais j'aimerais vraiment y être. Mais même si je ne suis pas au jeu pour courir, je sais que je serai là quoi qu'il arrive, car je suis un ambassadeur.
En 2024, pour la première fois de l'histoire, le marathon olympique sera ouvert au grand public. Des athlètes amateurs vont avoir l'honneur d'emprunter le parcours du marathon olympique le même jour que les pros. Est-ce que cette innovation te plaît ?
Paris 2024, Olympic Games Marathon, will be the unique.
Le marathon de Paris 2024 sera unique et ce sera la plus grosse course qu'il n'y aura jamais eu. Premièrement, une foule incroyable va participer à la course. Plus de 4000 personnes vont courir. C'est très important. Deuxièmement, la course débutera et se terminera en plein cœur de Paris. C'est pour ces raisons que les Jeux de Paris 2024 vont être incroyables. C'est la première fois de l'histoire que la cérémonie d'ouverture sera dans les rues du centre-ville et la cérémonie de clôture aussi.
Paris 2024 will be their first Olympic Games. I call it respect.
Ce seront aussi les premiers Jeux à respecter le changement climatique. Ils utiliseront 90% d'infrastructures déjà existantes. Ils vont beaucoup s'appuyer sur les transports en commun. Ce seront les meilleurs Jeux olympiques qui n'auront jamais existé.
Voilà, interview exceptionnelle d'Eliud Kipchoge, le double champion olympique et recordman du monde du marathon, réalisé par Benoît Boutron et dont vous pourrez retrouver l'intégralité dans le prochain numéro du podcast RMC Running. Il sera disponible dès le début de la semaine sur toutes les plateformes de téléchargement. Maryse, on sent que l'interview n'est pas son exercice favori. On mesure d'autant plus la chance qu'on a de l'avoir sur RMC. Eliud Kipchoge, ça dépasse un peu tout de même le cadre du simple sport, non ?
En fait, les Kenyans ont toujours un petit peu de mal avec l'interview parce que leur anglais est un peu hésitant. Donc parfois, ils n'osent pas faire d'interview à cause de ça. C'est dommage d'ailleurs. Et puis c'est quelqu'un qui est effectivement très réservé, très calme, mais en même temps complètement disponible. Et oui, bien sûr, c'est une immense chance parce que cet homme est une légende vraiment dans son sport, dans son milieu. Également, c'est une belle personne. C'est quelqu'un, encore une fois, qui est extrêmement disponible et très agréable. Donc, ouais, c'est une vraie chance de l'avoir en radio sur une interview longue. Il ne faut surtout pas rater ça.
Et oui, c'est une exclue radio que vous propose RMC. Benoît Boutron, je vous le disais, a réussi à être assez rapide pour être le premier et le seul à lui tendre le micro. Modestie, simplicité, alors sans verser dans les clichés, sans mépris aucun pour les autres sports, ça change quand même de d'autres champions dans d'autres disciplines. Hein,
non, parce qu'on a aussi notre lot d'abrutis, hein, on a l'athlétisme, faut pas croire, et notre lot de boulardises, non, il y a un peu. Mais après, il y a des disciplines qui, par elles-mêmes, rendent les gens un peu plus humbles. Quand on doit tous les jours faire des entraînements qui sont tellement costauds qu'on vomit après chaque entraînement, quand on se tape des 200, 300 bornes à la semaine, c'est sûr qu'on flambe un petit peu moins que dans des sports où on est obligé de rouler un peu des mécaniques, je pense aux 100 mètres par exemple, et d'impressionner la concurrence. Il y a aussi un jeu d'acteur entre guillemets, comme on peut avoir en boxe par exemple. Donc effectivement, en demi-fond, on a généralement des gens qui sont quand même plus modestes. On va dire que la difficulté du travail calme beaucoup les ardeurs, énormément. Et puis, il vient d'un pays où chaque année olympique, on a 20, 30, 40 gars qui arrivent à faire les minima pour se qualifier au JO, et où il n'y en a que deux ou trois, un petit peu plus parce que je crois qu'il y a le par équipe aussi, mais il n'y en a que quelques-uns qui partent. Donc forcément, ça calme aussi. On peut être battu par un illustre inconnu qui sera champion du monde deux jours plus tard, quoi.
Alors, pour expliquer un peu aux néophytes, bon, c'est vrai que le marathon, la production des images du marathon a beaucoup évolué, hein. Les médias font beaucoup d'efforts, hein. C'est devenu un peu moins abstrait à suivre pour ceux qui n'y connaissent rien. Pour les néophytes à qui on parle de la foulée magique de Kipchoge, comment toi, la spécialiste de la tête, tu pourrais l'expliquer, le vulgariser un petit peu. En quoi cette foulée, elle est si magique que ça, elle est si particulière?
Alors, je pense que même les néophytes sont capables maintenant de se projeter, parce que la course à pied, le running, ou la course à pied, on va le dire à la française, a quand même fait un boom énorme après les années 80, où on avait quelques fêlés qui étaient souvent des hippies, un peu, qui étaient mal vus. On disait les mal peignés qui allaient courir, qui faisaient du free running. Maintenant, sincèrement, aujourd'hui, tout le monde court, et on court aussi bien pour son plaisir que pour sa santé, même si on va pas très vite. Donc on est capable de se comparer. C'est un petit peu comme le gamin qui a fait au moins une fois un 100 mètres dans sa vie à l'école et qui est capable de se comparer avec ce que fait Usain Bolt. C'est pour ça qu'on admire autant le coureur de 100 mètres et le coureur de marathon. Et Eliud Kipchoge, ce qu'il a d'extraordinaire, d'une certaine façon, l'armada des coureurs d'Afrique et des hauts plateaux, ils ont tous ce physique extrêmement longiligne, extrêmement élastique aussi. Lui, il a une foulée qui est d'une élasticité incroyable, qui est très longue pour un coureur de marathon. La foulée, c'est de plus en plus grandi. On voit maintenant des coureurs courir avec une foulée de 800 mètres. Donc, c'est plus les petits pas où on attaque en talons, ce sont des gars qui attaquent plante de pied, qui sont un peu soulevés. On a l'impression qu'ils rebondissent. Alors, c'est vrai qu'il y a les nouvelles chaussures carbone, mais il ne faut pas croire qu'il y a dessous des petits ressorts et que c'est ça qui fait aller vite. Donc, il y a ça qui est impressionnant, et la vitesse. La vitesse, quand on voit passer un gars à 22 km/h à côté de soi, on se dit c'est pas possible. Comment le gars fait pour tenir 2 heures, quoi? Il suffit d'essayer de faire un petit footing.
Geoffrey Charpin confirme, coup, hein, il voilà, a vu le fusée passer ce matin à côté de lui.
Et tout d'un coup, effectivement, voir passer le gars à côté, se dire non, mais en fait, il est fou, c'est pas possible. C'est-à-dire que même 400 mètres, moi, je tiens pas à cette allure. Donc c'est ça qui est impressionnant.
Oui, et moi qui ai une foulée de pachyderme chaussée de chaussures de ski, je peux te dire que
ça fait beaucoup de handicap.
Ça fait rêver quand on voit le Kenyan courir. Je vous rappelle que l'intégralité de cette interview réalisée par Benoît Boutron sera retrouvée dans le prochain numéro du podcast RMC Running, disponible dès le début de la semaine sur toutes les plateformes de téléchargement. On reste dans notre projection vers Paris 2024. C'est l'heure d'accueillir l'invité du RMC Sport Show.
L'invité du RMC Sport Show.
Il était le porte-drapeau masculin de la délégation française aux Jeux Olympiques de Tokyo l'été dernier. On l'a quitté sur une déception, que dis-je, un crève-cœur pour lui et ses supporters au pied du podium des anneaux dans l'épreuve de gymnastique. Samir Ait Said est l'invité du RMC Sport Show. Salut Samir.
Bonjour à tous.
Salut Samir.
Samir, question, alors qu'on a dû vous poser plusieurs fois depuis votre retour du Japon, est-ce que la déception, la douleur, la tristesse, je ne sais plus comment il faut l'appeler, est-ce que tout ça s'est oublié?
Non, c'est pas oublié, mais voilà, il faut passer à autre chose. Moi, je suis déjà dans ma préparation pour Paris et voilà, de toute façon, ça fait partie des aléas du sport de haut niveau. Faut savoir rebondir malgré un échec. Il faut garder le cap et se donner à fond pour aller chercher cette médaille chez nous.
Alors Samir, on t'avait quitté sur une désinsertion du biceps, enfin un claquage au biceps, hein, tout simplement. Tu avais réussi quand même à faire tout ton mouvement, ce qui était assez impressionnant, ce qui a impressionné tout le monde, arriver même à faire ta croix de fer avec un biceps pété. Est-ce que tu es complètement récupéré? Est-ce que tu as eu besoin d'opération ou ça s'est remis avec simplement...
Alors complètement récupéré, non, pas encore. Là, j'ai refait un IRM à Monaco il y a 3 jours de ça. Ce qui est bien, c'est que la fissure est presque partie. Il reste un œdème, il reste encore un œdème dans le biceps, mais
ah oui,
déjà,
quand même 2 mois après, même plus que 2 mois d'ailleurs.
Mais j'avais fait, ouais, je savais très bien qu'en faisant cette finale, j'allais aggraver cette blessure. J'en étais conscient et voilà, j'étais prêt à payer le prix fort pour pas abandonner ma finale.
Conscient et inconscient, ouais. C'est un peu dire ça.
Ouais, vous savez, c'est complet, c'est vraiment très difficile de renoncer à une finale olympique.
Bah oui, je veux dire,
moi, clairement, dans ma tête, voilà, je savais ce qui risquait de se passer sur mes anneaux si je faisais cette finale. Mais voilà, je l'avais déjà accepté. J'étais prêt à aggraver cette blessure coûte que coûte, mais je pouvais pas passer à côté de cette finale olympique. Voilà.
Vous ne vous êtes pas raté, hein, comme on dit dans le jargon. Samir, Tokyo, ce devait être la revanche de Rio 2016. Cette revanche, elle sera finalement pour Paris 2024. Est-ce que finalement...
Il faut arrêter de remuer le couteau dans la plaie. Il est déjà couturé de partout, le pauvre.
Ouais, le pauvre.
Ça suffit, non, mais... là.
Finalement, est-ce que si cette revanche est, donc je parle de podium, de médaille olympique, peut-être de titre, est-ce que ce ne serait pas finalement encore plus beau, tout simplement?
Eh ben exactement, vous m'avez enlevé les mots de la bouche. L'essentiel, c'est de ne pas abandonner. Ça fait partie de mon histoire. J'ai une histoire qui est atypique, qui est vraiment pas ordinaire. Mais une chose est sûre, c'est que voilà, quand il y aura cette médaille, ça prouvera à tout le monde que quand on a un rêve, il faut se battre coûte que coûte, malgré les coups du sort, malgré voilà les difficultés qu'un sportif de haut niveau peut rencontrer durant sa carrière. Et voilà, ça fait partie de mon histoire. Et voilà, j'ai la chance d'avoir cette revanche qui va se faire dans mon pays.
Ah oui.
C'est encore plus beau. Je me demande même si c'est pas fait exprès. Je me demande même si c'est pas fait exprès, parce que avoir des jeux dans notre propre pays, je pense que la prochaine fois qu'il y aura les jeux à Paris,
votre carrière sera terminée.
On fumera les pissenlits par la racine, il y a de bonnes chances. Ouais. Mais voilà. Dis-moi Samir, on te suit quand même maintenant depuis un bon moment. T'es passé plein de fois dans le Moscato Show. On t'avait reçu aussi en studio après Rio, après ta fracture de la jambe. Moi, ce qui m'inquiète un tout petit peu, c'est Maryse, hein, FNGP. Ce qui m'inquiète un tout petit peu, c'est, tu vois, tu as dit quand cette médaille sera là, c'est-à-dire que tu n'envisages pas aucune autre issue. Et tu étais déjà dans cet état d'esprit aussi sur ces Jeux Olympiques de Tokyo. Est-ce que tu n'es pas finalement trop surinvesti dans c'est ça et ça peut pas être autre chose? Est-ce que c'est pas finalement te mettre un peu en danger? Est-ce que tu as une porte de sortie? C'est-à-dire, est-ce que tu prépares à côté, je sais pas, un métier, ou est-ce que tu travailles autre chose mentalement pour ne pas être que sur cette optique de c'est la médaille ou rien? Parce que ça me fait un peu peur quand je t'entends parfois.
Non, faut pas avoir peur. Bien sûr que j'ai déjà pensé à ma reconversion. J'ai eu un diplôme de kiné, donc ma reconversion est déjà faite. Maintenant là, c'est que du plaisir, c'est que du bonus entre guillemets. voilà, je suis fier d'être d'être un athlète français, et encore plus quand on va voir les Jeux Olympiques chez nous. Mmh. Maintenant, qu'est-ce que je peux craindre de plus ? Un échec ? L'échec, ça fait partie de la victoire. Et si on est prêt à gagner, on est prêt à perdre. Et donc voilà, regardez, j'ai eu des échecs, et pourtant ça m'a pas empêché de continuer à garder la tête haute et de me faire plaisir.
Okay. Donc c'est bien. Tu m'as rassuré. Ça va. Vas-y, fonce. Pas de souci. J'ai juste une dernière question. Tu sais, ton mouvement, le mouvement que t'as passé à Tokyo qui porte ton nom maintenant. Ouais. Est-ce qu'il avait été bien noté ? Est-ce que c'est quelque chose que tu vas continuer à travailler, voire même à complexifier en vue des Jeux de Paris ?
Il y a d'autres choses qui se préparent, je ne peux pas trop en parler pour le moment.
Ah.
Mais...
Le Samir Saïd 2, le retour.
Pourquoi pas.
L'échec fait partie de la victoire. Si on est prêt à gagner, il faut être prêt à perdre. Les mots de Samir Saïd, c'est
une belle philosophie. Ça peut faire un fronton de maison sans problème.
Ben, ouais. Oui, une devise olympique.
Une devise, ouais.
Samir, en quelques mots, très rapidement, c'est quoi le programme, les échéances à venir, entraînement, préparation, compétition, soigner cet œdème.
Oui, voilà. Bah là, je continue à faire mes soins. Là, du coup, je continue à faire aussi de la prépa physique. Donc tout ce qui est course à pied, séance en côte, voilà, je refais un peu d'abdos, gainage, dorsaux à l'entraînement, vélo. Et voilà, dès que j'ai le feu vert normalement, je pourrais avoir le feu vert dans un mois pour remonter sur les anneaux. Et entre temps, bah voilà, vu que j'ai un peu plus de temps pour moi, bah je vais faire des interventions un peu à droite à gauche, je vais chez les partenaires. Là on revient d'un séminaire à la Baule avec Toyota, donc ça nous permet aussi de nous retrouver entre nous depuis les Jeux. Donc voilà, c'est comme une bonne chose de continuer à se voir, surtout en cette période un peu compliquée, parce qu'avec le Covid, là, il y a beaucoup de mesures qui sont pas forcément très faciles. Donc voilà, de belles choses à venir, avec un championnat d'Europe, un championnat du monde et un jeu méditerranéen qui vont arriver, je crois, août, septembre, octobre. Donc le calendrier 2022 va être pas mal.
Merci beaucoup Samir, votre enthousiasme et votre sérénité font plaisir à entendre pour ceux qui vous ont quitté sur ces larmes à Tokyo. On vous retrouvera très bientôt sur l'antenne de RMC. Bon courage pour la préparation, la guérison
avec
d'abord et la préparation.
Prenez soin de vous, à bientôt.
Merci beaucoup,
merci
à bientôt Samir.
Samir.
Vous restez bien avec nous, dernière ligne droite du RMC Sport Show. Dans un instant, on parlera un petit peu foot, on aura les compos de Clermont-OM. C'est l'affiche de clôture de cette 12e journée de Ligue 1 qui a révélé quelques surprises, peut-être le match piège pour l'OM de Jorge Sampaoli. Et puis, on parlera d'une autre très belle affiche, c'est du rugby, le Racing 92 face au Stade Toulousain. C'est l'affiche de clôture de la 9e journée, cette fois, de Top 14. Dommage qu'il manque autant d'internationaux. On en parlera avec Julien Richard. Vous ne bougez pas, on revient tout de suite sur RMC.
RMC Sport Show. Simon Dutin.
19h50, c'est la dernière ligne droite du RMC Sport Show en compagnie de Marie-Zéven Jeppé. On est ensemble en direct jusqu'à 20h avant de laisser la place au foot sur RMC, évidemment. La 12e journée de Ligue 1, il y aura également un petit peu de rugby. Vous l'avez compris, c'est l'heure de la minute foot.
RMC Sport Show, la minute foot.
On se projette sur la rencontre Clermont-OM, c'est l'affiche de clôture de cette 12e journée de Ligue 1, le 14e face au 4e, 20h45 au stade Gabriel-Montpied, où nous attendent Damien Tardieu et Jean Rességuet qui vont commenter cette rencontre pour RMC. Bonsoir messieurs.
Bonsoir tout le monde.
Bonsoir.
Alors messieurs, est-ce que...
Des surprises, en veux-tu, en voilà.
Ah, voilà
pour
mon
cette
Jeannot.
Soirée d'Halloween.
Est-ce que t'as mis ton beau costume, Jeannot?
Je reste discret, moi, dans ces cas-là, si tu veux. Parce que ça ne me réussit jamais de me déguiser.
Ouais, les soirées déguisées, ouais.
Je savais que ça allait te faire rigoler, Marie.
Parce que j'essaye d'imaginer les commentateurs dans les tribunes habillés en loup-garou ou en citrouille, si tu veux.
Ce serait vraiment immense, messieurs, si vous aviez sorti votre déguisement.
Je le suis un petit peu en permanence, comme dirait un certain Vincent Moscato. C'est moi qui le dis, c'est pas lui.
Ah, ça aurait été immense si vous étiez déguisé, messieurs. Allez, à un peu moins d'une heure du coup d'envoi, j'imagine que les compos de ce Clermont sont tombés.
Oui, elles sont surprenantes. Elle est beaucoup plus surprenante à Marseille. Je fais un petit peu de teasing qu'à Clermont, même si Damien, à Clermont, il y a deux changements marquants au-delà de la suspension de Johan Gassien.
Oui, il y a des changements avec tout ce qu'on attendait, notamment c'était de savoir si Mohamed Bayo allait être titulaire. La réponse, c'est non. C'est Pierre-Yves Hamel qui débutera en pointe. Jim Alvina va être préféré à Jodel Dossou pour animer également l'attaque clermontoise. On aura également Jonathan Iglesias, c'est pas une surprise, qui remplace Johan Gatien qui est lui suspendu. Et puis la deuxième grosse surprise côté clermontois, c'est la titularisation de l'ancien Marseillais Saifedine Kawi, préféré à Jason Berthomier qui était pourtant l'un des clermontois les plus réguliers depuis le début de la saison. Si je résume tout ça, ça nous donne Arthur Desmas dans les buts, Hakim Zedatka arrière droit, à gauche Vital Nsima, la défense centrale immuable Cédric Koutounji et Florent Ogier, à la récupération donc Jonathan Iglesias en compagnie et bien de Salis Abdoul Samed. On aura comme d'habitude trois milieux offensifs côté clermontois avec Kawi donc pour animer le jeu, avec à droite Alvina, à gauche Elbassan Rachani et devant donc Pierre Ibamel préféré à Mohamed Bayo.
Et Jorge Sampaoli est vraiment dans sa semaine surprise au niveau des compositions d'équipe. On avait déjà vu un 11 de départ surprenant à 3 contre Nice. Et bien là, je vais vous commencer par vous dire qui est sur le banc des remplaçants. Khaled Tassar, Payet, Gueye, Milik, ça vous va comme ça? Composition d'équipe de l'Olympique de Marseille. Paulo Lopez dans les buts avec Saliba, Balerdi et Luan Pérez pour les trois défensifs. Guendouzi, Camara avec le brassard de capitaine, Gerson et Conrad de la Fuentes. Et puis sur les côtés, il y aura à droite Lirola, à gauche Under. Et l'attaquant de pointe sera le jeune Sénégalais Dieng, dont on a l'habitude de voir ses rentrées. Et là, il sera titulaire. C'est donc Sampaoli qui fait tourner dans la perspective du match de l'Europa League, mais oui, aussi sur le fait qu'il a une équipe, des joueurs qui ont beaucoup enchaîné ces derniers temps.
Et oui, un gros rendez-vous à venir face à la Lazio cette semaine. Merci beaucoup messieurs, vous serez au commentaire de cette rencontre à partir de 20h45 Clermont-OM, en clôture de cette 12e journée de Ligue 1. Ce sera évidemment à suivre en direct sur RMC dans After Foot, le match autour de Nicolas Villas avec Fred Piquion et Kevin Diaz. Il nous reste quelques minutes, Maryse, pour parler de l'autre grosse affiche en sport-co de la soirée. C'est du ballon ovale, du rugby. Racing 92, Stade Toulousain, 21h05. C'est la clôture de cette 9e journée de Top 14. Julien Richard, salut Julien.
Salut Marie, salut Simon, salut à toutes et à tous.
Julien,
on n'est pas déguisé non plus ici. Pas déguisé, mais la Paris La Défense Arena est annoncée à guichet fermé et est aux couleurs d'Halloween. Et oui. C'est assez sympa, il y a pas mal de spectateurs qui viennent déguisés dans les tribunes.
Oui, ça sert à quelques effectivement costumes de vampires ou de citrouilles en tribune. Des citrouilles, il n'y en aura pas sur la pelouse, on va pas aller jusque-là, mais c'est vrai que cette affiche de rêve d'entre deux poids lourds du top 14, deux favoris au titre. Bon, elle est un petit peu galvaudée par l'absence des internationaux retenus avec le 15 de France tout de même.
Ouais, c'est le premier doublon spectaculaire, on va dire, hein, cette rencontre entre le Racing 92 et le Stade Toulousain. Pourquoi ? Parce que dans les rangs du Stade Toulousain, il y a 11 absents. 11 internationaux français retenus à Marcoussi. Il faut que la salle vidéo soit grande hein, à Marcoussi pour accueillir tous les joueurs toulousains qui vont certainement regarder ce match-là. Donc et puis voilà, c'est des, notamment le maître à jouer Antoine Dupont évidemment, Romain Tamac, je vais tous les citer, mais il y a Cyril Bay, Dorian Aldeguerri, Julien Marchand, Peato Mahovaca, Thibaut Flamand, Anthony Gelonge, François Cross, Mathis Lebel, Thomas Ramos. Donc la liste est très très longue, mais au Stade Toulousain, qui dit doublon dit aussi opportunité. On pense par exemple aux deux talonneurs qui ne sont pas là côté Stade Toulousain, ils sont en équipe de France. Et bien on va voir des jeunes, Guillaume Cramon qui est titulaire, que l'on avait déjà vu la saison dernière justement à l'occasion de doublon, ou encore Yann Bouliba qui est sur le banc, 19 ans seulement, ce sera sa première feuille de match chez les pros, peut-être ses premières minutes en top 14. Donc c'est des opportunités aussi par exemple pour la charnière Alexis Balès, Tim Nanaï Williams, qui évidemment, quand il y a Antoine Dupont et Romain Tamac, ont peut-être un peu moins de temps que jeu. Ça leur propose aussi des solutions. Et le staff d'ailleurs voit ça comme une opportunité de jauger la profondeur de l'effectif. On essaie en gros de tirer du positif de cette situation où c'est vrai, eh bien les stars manqueront à ce choc. Juste côté Racing 92,
et oui,
c'est moins spectaculaire, mais il y a aussi des absents. Gaël Ficou, lui, est retenu à Marcoussi, mais trois internationaux ont été libérés par le 15 de France et seront bien titulaires ce soir sur la pelouse de la Paris La Défense Arena. Bernard Leroux, Ibrahim Diallo ou encore Donovan Taofi Fenoir.
Et on n'oublie pas Teddy Thomas qui aurait pu être bien avec sûr. Le 15 de France s'il ne faisait pas son retour. C'est aussi l'événement pour les ciels et blancs.
Ça fait quasiment 4 mois qu'il n'a plus joué. Souvenez-vous, Teddy Thomas, l'ailier du Racing 92, qui était blessé après la tournée en Australie, touché aux ischio-jambiers. Il aurait dû rejouer lors de la 4e journée, c'était contre le Loup, mais rechute justement sur cette blessure aux ischio-jambiers, ce qui a retardé son retour et ce qui l'a empêché de rejoindre le 15 de France pour cette tournée de novembre. Il n'a plus joué depuis près de 4 mois donc, et il sera titulaire sur l'aile du Racing 92. Il lui reste deux match finalement pour peut-être, pourquoi pas, disputer la fin de la tournée, hein, puisque il pourrait être appelé selon les circonstances par le 15 de France s'il arrive à enchaîner un petit peu.
Merci beaucoup Julien Richard, tu seras au commentaire, on ne ratera rien des meilleures actions et des points inscrits dans cette affiche indécise du coup entre le Racing 92 et le Stade Toulousain, clôture de cette 9e journée de Top 14. On te retrouvera tout à l'heure sur RMC. Avant de se quitter, Marie, je te demande, tu seras plus Clermont OM en foot ou Racing 92 Stade Toulousain en rugby, toi?
Moi aussi, je suis l'ancienne du Racing, hein, donc je vais regarder Racing 92.
Donc, tu mises sur une petite victoire des Ciel et Blanc face à Toulouse, pour en profiter, il n'y a pas les internationaux.
Le bord reste joli quand même.
Il y a une sacrée équipe, effectivement, du côté du Stade Toulousain. Le RMC Sport Show, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci d'avoir été avec nous. Vous restez évidemment sur RMC, le sport en live. Le débat ne s'arrête jamais. Dans un instant, on va laisser la place au foot, l'after foot, le match pour suivre Clermont OM. Ce sera en compagnie de Nicolas Villas, de Fred Piquion, de Kevin Diaz. Et puis ce soir, vous retrouverez évidemment Gilbert Bribois et toute son équipe pour l'after foot. À très vite sur RMC. Salut.
RMC Sport Show.